Et j'accueille à l'instant Amélie Masson-Labonté, qui est entrepreneur, historienne culinaire, fondatrice de l'entreprise Storica. Bonjour!
Bonjour Chantal, ça va bien?
Ah, ça va très bien vous-même?
Oui.
Eh bien, historienne culinaire, tout de suite, écoutez, on se demande, bon, est-ce qu'on étudie ça? Est-ce qu'il y a une formation précise pour devenir historienne culinaire ou vous l'êtes devenue par défaut?
En fait, c'est un choix et une passion. Moi, j'ai des études en histoire puis en développement des affaires, mais j'ai toujours voulu me spécialiser sur le patrimoine immatériel. Donc ça comprend plein de choses, là. Les contes et
Bien sûr.
légendes, les chants
Ouais.
traditionnels, mais en particulier la cuisine, et c'est ma grande passion.
Ah, ben écoutez, c'est vraiment très intéressant, c'est rare, et puis bon, c'est très varié. Bon, effectivement, comme vous dites, vous avez développé cette passion, et vous avez récemment réalisé une étude pour l'Office montréalais de la gastronomie. Donc, ça, qu'est-ce que ça fait, ça, l'Office montréalais de la gastronomie?
En fait, ils font toutes sortes de choses, puis je vais pas nécessairement m'avancer là à expliquer leur mission, mais en gros, ils font la promotion du volet culinaire puis du tourisme culinaire en gros à Montréal. Et
D'accord.
puis ils ont un grand projet ambitieux de positionner Montréal comme capitale gastronomique d'Amérique du Nord.
OK.
Donc c'est
C'est pas rien, là,
ouais.
quand même, oui. Je comprends. Alors, évidemment, bon, Montréal veut se positionner au niveau culinaire. Ben, c'est sûr qu'effectivement, on a une belle diversité, ça, on le sait déjà. On est très reconnus, hein, pour notre cuisine, enfin, pour les restaurants et tout, pour bien manger, bon, bref. Mais vous avez, vous, cerné six éléments phares qui signent l'identité culinaire de la ville. On va pas nécessairement tous les détailler, là, mais juste rapidement, parmi ces éléments, bon, qu'est-ce que vous pourriez nous dire, en fait, de ce que vous avez identifié comme tel?
Oui, c'est ça. En fait, c'est la conclusion d'un rapport d'à peu près une centaine de pages, là, mais ça s'est terminé sur les éléments qu'on voulait mettre de l'avant pour vraiment sortir la spécificité de Montréal par rapport à d'autres grandes villes, par exemple New York, Boston, Toronto. Donc, ce qui est vraiment ressorti pour Montréal, donc comme vous dites, là, c'est six éléments. Il y en a deux qui sont liés à la culture culinaire juive, donc le fameux bagel de Montréal et le smoked meat et les épices aztèques montréalais. Donc ça,
Ouais.
c'est vraiment, on peut pas passer à côté. Ensuite, j'ai fait ressortir c'est-à-dire le pique-nique montréalais, mais c'est lié à une étude qui est plus approfondie sur l'appropriation de l'espace urbain par les Montréalais. Donc ça
Ouais.
comprend également la vie de ruelle, ça comprend les barbecues dans les parcs, les rues piétonnes. Donc, c'est tout
Ouais.
un ensemble,
Ça,
mais
on
je
va en
trouve ça intéressant.
parler, on va le détailler comme il faut, ça,
OK,
le pique-nique,
super.
effectivement.
OK.
Mais évidemment, on parlait du bagel, on parlait du smoked meat, mais bon, il y a un lieu aussi, la rue Saint-Laurent, le boulevard Saint-Laurent, qui a joué un rôle aussi fondamental. Je pense, moi, au hot dog, entre autres. Je ne sais pas si c'est à ça que vous faisiez référence.
En fait, le boulevard Saint-Laurent est tellement important parce qu'on parlait du multiculturalisme tout à l'heure, puis c'est le corridor d'immigration à Montréal. Donc, c'est vraiment l'endroit où vont s'ancrer toutes les communautés culturelles. Oui, il y a eu les Juifs qui remontent le boulevard Saint-Laurent, puis qui s'arrêtent à peu près à la hauteur du Mile End. Il y a aussi les Italiens qui montent un petit peu plus haut jusque dans la
C'est
petite
vrai.
Italie. Il y a la communauté aussi cantonaise, donc des immigrants chinois qui sont venus pour travailler sur le chemin de fer du Canadien Pacifique, puis qui finissent par s'établir dans l'actuel quartier chinois. Et puis, oui, c'est ça,
Ben oui,
le
vous avez bien
fameux
raison.
bagel.
Toutes les cultures se retrouvent là, ou à peu
Oui,
près. Même, je pense, la culture
absolument.
portugaise. Bien
Oui.
sûr, on retrouve des restos portugais sur l'avenue, sur le boulevard Saint-Laurent, c'est-à-dire. Et puis, bon, ben, évidemment, toute cette part-là en fait, cette part, ce multiculturalisme montréalais qui vraiment qui peut se distinguer jusqu'à un certain point, bien que c'est présent un peu partout dans le monde.
Ah oui, absolument. C'est juste que en Amérique du Nord, le multiculturalisme est tellement ancré profondément comme tissu de base là, de l'urbanité. Puis à Montréal, il faut aussi dire qu'on a eu l'Expo 67, on a eu les Jeux olympiques qui ont contribué vraiment à ouvrir la ville puis à l'éclater là, à ce niveau-là. Donc, ce qui est particulièrement beau à Montréal, je crois que c'est Kim Tsui qui disait ça, c'était que c'est vraiment notre fierté, c'est le multiculturalisme à Montréal. Donc ça, c'est extraordinaire.
Oui, ça peut être une réelle distinction, en effet. Oui, on est fiers c'est ça, d'avoir de toutes ces cultures, d'être riche de toutes ces cultures. Ça se reflète dans toutes sortes de quartiers. C'est vivant. Et c'est ça, ça nous définit bien. D'ailleurs, je pense aussi des traditions culinaires qu'on a adoptées dans notre quotidien.
Oh mon Dieu, tellement. Si on pense par exemple à la sauce à spag qui est devenue un classique québécois, pourtant,
oui,
récemment je faisais des recherches sur le méchoui qui est aussi considéré comme un classique même en région rurale, sauf que finalement le méchoui c'est une spécialité algérienne qui est arrivée dans les années 60 seulement au Québec. C'est sûr que nous on a commencé à la faire au port, mais c'est pour dire à quel point on les intègre vite. Ces traditions.
Oui, dans nos habitudes alimentaires de tous les jours, hein, on reçoit avec une paella, là, par exemple, ça peut être n'importe quoi, là, toutes sortes de plats venus d'ailleurs, là, et que ce soit des couscous, c'est ça, on fait ça à la maison souvent quand on veut être thématique, là, si on veut.
Oui, bien sûr. Puis il y a aussi, faut pas oublier la cuisine Mohawk aussi. On a tendance souvent à oublier, mais si on regarde le pâté chinois, tu sais, le maïs, c'est vraiment un ingrédient autochtone qui est répandu dans toute l'Amérique du sud au nord. Et ça, c'est vraiment le maïs qui a intégré un plat français, donc le hachis parmentier ou peut-être le shepherd's pie anglais, qui est vraiment de la viande avec des pommes de terre. Donc, on ajoute l'ingrédient autochtone et puis ça fait notre pâté chinois.
Ouais. C'est ça. Ben Amélie, on reprend notre discussion. On parlera du pique-nique après la pause. On revient tout de suite après. D'accord. Un instant.
Vous écoutez Aime l'été.
Et de retour avec Amélie Masson, la bonté, entrepreneur, historienne culinaire, fondatrice de l'entreprise Storica. Et on va parler du pique-nique dans quelques instants. Je voulais juste vous parler de votre entreprise comme telle, Storica. Qu'est-ce que vous faites exactement?
Oui, bien en fait, avec Storica, en gros, je fais du storytelling pour l'industrie agroalimentaire, essentiellement, des fois dans le secteur culturel aussi, mais c'est vraiment de mettre en valeur le tourisme durable et puis les métiers d'artisans qui sont liés autour de la confection de nos produits du terroir.
OK. Donc, la mise en valeur, là, vraiment aussi du patrimoine gastronomique, tout ça. Alors, vraiment, vous faites finalement, vous êtes consultante hein, à ce niveau-là.
Oui, absolument.
Bon, parfait. Et puis, valoriser les identités régionales, locales, culinaires, culturelles, tout ça, c'est vraiment votre domaine. Donc, voilà. Alors, c'est ça d'ailleurs. En fait, on parlait de vous comme étant une adepte de l'approche immersive anthropologique. Qu'est-ce que c'est exactement?
Oui, bien en fait, c'est que moi, je suis une fille très terrain. j'aime beaucoup aller rencontrer les gens, faire des entrevues avec eux, même participer. Ici, par exemple, je vais visiter une entreprise de fromage ou un vignoble, je vais aller participer aux travaux pour vraiment voir de l'intérieur leur technique de fabrication, puis aussi être en contact avec les gens. Le côté humain est très important pour moi.
Donc, vous êtes vraiment engagée sur le terrain, vous allez vraiment plus loin. Vous mettez la main à la pâte, au fond.
Exactement, et j'adore ça.
Oui, c'est ça. Et adepte en même temps du mouvement slow, du tourisme participatif. Alors, vraiment très intéressant que votre domaine. Alors, justement, parlons de dans les six éléments phares qui signent l'identité culturelle de la ville de Montréal. En fait, on a identifié le pique-nique, hein, qui est un rituel bien-aimé des Montréalais. Et depuis longtemps, d'ailleurs, alors, c'est sûr qu'on voulait parler un peu plus du pique-nique parce que c'est l'été, après tout. Hein, et c'est ça, et on aime toujours, on se prend beaucoup à rêver de repas comme ça, dans les parcs, et puis ça vient tout naturellement.
Ah oui, c'est vrai, mais c'est que ce qui est vraiment ressorti, c'est que les Montréalais se jettent dans les parcs là, dès les premiers rayons de soleil.
Oui.
Mais c'est vrai qu'on a un hiver qui est assez rude, donc comparativement à d'autres villes dans le monde, on est vraiment heureux, excités d'aller pique-niquer dehors. Aussi, ce qu'il faut dire, c'est que la ville de Montréal est assez permissive au niveau juridique. T'sais, on a le droit à Montréal d'avoir de l'alcool dans les parcs qui s'accompagnent d'un repas. On a le droit à certains endroits d'utiliser des barbecues, d'amener son chien. Donc ça vient contribuer à faciliter la chose. Et puis aussi, le pique-nique, c'est vraiment un espace qui est accessible à tous. C'est ça, on oublie des fois l'accessibilité, mais à Montréal, il y a des très petits appartements. C'est pas tout le monde qui a une cour, c'est pas tout le monde qui a une terrasse.
C'est
donc, c'est vraiment un endroit qui est là pour tous et pouvoir se réunir en groupe quand il fait beau.
C'est ça, ça peut être des fêtes d'enfants. On voit ça souvent dans les parcs, des fêtes de famille. Alors, c'est vrai, et puis on peut même se marier, pourquoi pas, tu sais, avoir des mariages dans les parcs. Mais c'est vrai que c'est très convivial. C'est un espace que l'on s'approprie facilement. Et puis, comme vous dites, avec une certaine, bon, tolérance. Mais ça, évidemment, pendant la pandémie aussi, on a, bon, on voyait des, quand même des restaurateurs là, qui organisaient, en fait, qui faisaient ce qu'on appelle, bon, des take-out ou en fait des pique-niques, on appelait ça comme ça, là, pour, avec même la bouteille, qui nous permettait d'aller manger à l'extérieur, dehors, sur un banc de parc, quelque chose. Enfin, c'était ça, on a pu faire ça au moins pendant la pandémie. Donc ça, mais déjà là, c'était une tradition bien ancrée et puis qui remonte très loin, hein, Amélie.
Ah oui, ben moi je me suis amusée à regarder un peu là, ce qu'il y avait, ce qu'on pouvait retrouver dans l'histoire. C'est sûr que j'ai pas creusé infiniment, mais tu sais, je me suis rendue au début des années 1800, 1900. J'ai trouvé aussi beaucoup de pique-niques ouvriers. Donc, c'était vraiment des entreprises qui organisaient des pique-niques pour leurs employés. Donc, tu sais, en 1903, Corporation des artisans qui se réunissent. Il y a des marins français on a retrouvé des photos des marins français qui pique-niquaient sur le Mont-Royal. Des religieuses qui amenaient leurs petits pensionnaires pique-niquer aussi en ville. La Ligue ouvrière catholique. Donc, si on se met à chercher... Puis ça, c'est juste en 5 minutes de recherche, là. Donc, il y en a. C'est vraiment une tradition qui est profondément ancrée à Montréal.
Oui, c'est ça. Et puis, bon, de toute façon, partout dans le monde, écoutez, moi-même, ben, je regardais un petit peu, là, bon, la tradition du pique-nique. Et puis, bon, on en retrouve au Moyen-Âge, même.
Ah oui, manger en extérieur, c'est pas nouveau. C'est,
ben oui, on pense au déjeuner sur l'herbe d'Édouard Manet, là, enfin de tous ces peintres paysagistes, tous ces peintres impressionnistes qui ont fait beaucoup de ces, en fait, comme sujet, des pique-niques dans les parcs.
Oui, c'est ça. Ben on a le pique-nique de villégiature, hein, c'est un peu ce que Manet portrait là, dans sa célèbre toile. Il y a aussi, comme je disais tantôt, les pique-niques ouvriers. Puis à Montréal, on a les communautés culturelles aussi qu'il ne faut pas oublier, là, qui arrivent avec leurs traditions de plein air, puis tout l'équipement qui vient avec. Là, même le pique-nique à Montréal, ça vient avec tout un équipement du frisbee aux chaises.
C'est vrai.
Aux cordes tendues. Donc, c'est vraiment tout un attirail là, qu'on a pour elle.
Alors, c'était le pique-nique, c'est très démocratique, finalement. Ça peut toucher toutes les classes de la société, mais ça permet, c'est ça, comme on le dit, de s'approprier l'espace. Et puis, bon, on adore être à l'extérieur, c'est sûr, avec des hivers un peu plus rudes, finalement. Alors, dès les premiers rayons du soleil, comme vous le dites. Donc, c'est ça. Donc, il y a vraiment une tradition qui remonte très loin dans l'histoire. Et puis, finalement, qu'on a, bien sûr, adopté ici. Mais on pense, nous, tout près ici, on a le parc La Fontaine. Hein, c'était vraiment un très bel endroit pour le pique-nique.
Ah oui, puis on l'a vraiment vu en temps de pandémie, là, c'était le seul endroit finalement où les gens pouvaient se réunir. Puis je pense que dans l'histoire du pique-nique, c'est un moment historique. Moi, j'ai des images que j'oublierai jamais, des foules hein, qu'il y avait dans le parc Jarry, parc Laurier. C'est sûr qu'il y en a encore aujourd'hui, mais à ce moment-là, c'était vraiment, on sentait une certaine euphorie là, de se retrouver dans les parcs, surtout l'été. Parce que l'hiver, c'était plus difficile. Mais...
Exactement, mais c'est ça. Donc, et puis, ben, pendant la pandémie, on nous donnait même les ustensiles. Enfin, bon, on nous facilitait la tâche, le petit panier. Tout était un peu prévu pour, c'est ça, nous faciliter le tout. Mais alors, c'est ça. Puis le mot pique-nique, là, bon, avez-vous un petit peu une idée d'où ça vient?
Ah, ça, j'ai pas investigué, mais c'est bien intéressant.
Ben c'est ça, parce qu'en fait, je sais pas, j'avais quelque chose qui disait que, bon, on parlait de, ben, c'est une espèce de terme un peu fourre-tout, finalement, mais c'est ça, j'avais, bon, on disait le mot « pique » qui viendrait du verbe « piquer », dans le sens de « picorer », là, un peu inspiré des poules, c'est ça,
ouais,
qui
ça
picore les graines, ça peut faire un certain sens, hein, et, bon, la « nique », désignerait une petite chose, bon, sans valeur, là, sans grande valeur, à savoir que, bon, un pique-nique, c'est un repas léger, différent un peu d'un casse-croûte, en réalité, hein, c'est pas la même chose. Casse-croûte qui était peut-être un petit peu plus mangé sur le pouce, et puis le pique-nique, ben, c'était un petit peu plus élaboré, sans être un repas de restaurant.
Oui, c'est vrai, pique-nique, on pense peut-être à des sandwichs, peut-être un poulet rôti si on est chanceux, mais c'est quelque chose de simple sur le pouce. Soit on le fait en formule potluck, hein, on voit beaucoup ça, chacun amène son plat.
Alors, c'est ça. Donc, ça nous caractérise ici à Montréal. Vraiment, vous en faites quand même un des 6 éléments phares là, qui signe notre identité culinaire. C'est quand même quelque chose. Et puis, c'est ça. Est-ce que vous vous êtes penché un petit peu sur le type d'aliments, c'est ça, que l'on propose, enfin, que l'on a dans nos pique-niques?
Oui et non. C'est-à-dire que souvent, ça va être les restaurants de proximité, donc à proximité des grands parcs, qui vont fournir si on pense, disons, proche du canal de la Chine, il y a le restaurant Sapé Brothers qui offre des boîtes à pique-nique pour les gens qui vont pique-niquer proche du canal. Et puis sur le Mont-Royal, il y a beaucoup de gens qui mentionnent les poulets portugais qui sont à proximité. Donc, c'est un peu plus que de cette manière-là que ça s'organise. Mais vraiment, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une mode qui va peut-être durer, mais celle d'offrir vraiment des paniers pique-nique aussi pour les touristes, pour qu'ils puissent vivre cette expérience-là qui est très montréalaise, de s'approprier le territoire, de pas nécessairement faire une activité en guillemets touristique, mais vraiment une activité de détente aux côtés des Montréalais. Donc, c'est vraiment un peu dans ce que je parlais tout à l'heure par rapport au tourisme participatif. C'est un peu ça. C'est vivre un moment quotidien, de vie quotidienne, aux côtés de la population locale.
Exactement, donc, parce qu'une clientèle touristique, hein, ben, on est toujours en quête d'immersion un peu. Hein. On veut découvrir plus que le territoire, c'est-à-dire qu'on veut évidemment rencontrer des gens, et puis le pique-nique, ça peut être une belle occasion aussi. Alors, dans les parcs et partout, de toute façon, au Québec, là, tous les parcs, enfin, les endroits, bon, les parcs nationaux, enfin, qu'importe, on a toujours plein d'endroits dans toutes les régions du Québec où on peut pique-niquer, s'arrêter. Alors, vraiment, c'est une... Oui, c'est ça. Puis même, ben, aujourd'hui, avec les applications, on retrouve également, il y a la possibilité de se faire livrer au parc voisin. C'est toujours une possibilité. Alors là, on va quitter la salade de macaroni, assurément. En tout cas, très intéressant. Mais en fait, tout votre travail est amusant parce que je voyais que vous avez, entre autres, travaillé sur les biscuits d'hier à aujourd'hui. Un article que j'ai vu à propos de ce que vous faites, décembre 2022. C'est ça, donc vous avez un petit peu fait l'histoire du biscuit, notamment.
Ah oui, ben moi, j'ai commencé ma compagnie comme ça il y a une dizaine d'années en testant un produit inspiré de biscuits européens. Donc en Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Suisse, j'ai voyagé beaucoup dans ce coin-là. Puis j'ai développé une ligne de biscuits de pain d'épices que j'avais commercialisé. Donc c'était vraiment pour, quand je vous disais tantôt que je suis vraiment quelqu'un qui aime faire les choses appliquées, ben je voulais faire découvrir l'histoire à travers un produit qu'on pouvait manger. Mais oui, je travaille sur toutes sortes de sujets agroalimentaires. Des fois, c'est j'ai des distilleries à développer leurs produits alcoolisés. Des fois, c'est dans le domaine de la charcuterie. Des fois, je travaille avec des maraîchers. Donc, c'est vraiment la gastronomie de point de vue très large.
Ah, en tout cas, fort intéressant. Amélie Masson, La Bonté, je trouve que ça a été une belle rencontre. Et puis, alors, évidemment, on va s'intéresser, on va continuer à pique-niquer cet été et puis on va penser à vous.
Je l'espère bien.
Merci beaucoup, là, et on va suivre votre travail. Merci beaucoup, Amélie Masson, La Bonté. C'est un plaisir.
Bonne journée, au revoir.